18h Club, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Christophe Maury.
Avec les beaux jours, ne manquez pas de vous promener à Montmartre, et particulièrement rue Cortot. C'est juste au-dessus de la vigne qui fait l'un des renoms de la butte. C'est un garable, c'est escarpé, mais le bus 40 nous y emmène comme dans un petit train d'attraction. Le printemps, je ne vous dis que ça. Alors au numéro 12 de la rue Cortot, vous entrez dans la maison de Suzanne Valaudon, qu'elle partageait avec son fils Maurice Utriot. Vous êtes dans le musée Montmartre. Les fleurs sortent à peine et les feuilles toutes frêles régalent de leurs promesses. Dans le jardin, bancs, chaises et tables permettent de prendre une collation sous le soleil qui ne brûle pas encore et qui réconforte jusqu'aux os. On est ailleurs, on est hors du temps, ou plutôt dans cette époque qui semble si heureuse car tellement humaine. C'est d'autant plus le moment d'y aller que le musée propose une exposition consacrée à Auguste Herbin jusqu'au 15 septembre. Et c'est bien normal puisqu'il a occupé l'atelier du bateau lavoir que lui avait laissé Picasso. Alors, vous ne connaissez pas Auguste Herbin, eh bien, je vais vous raconter. Parce que Herbin est un des peintres les plus étonnants du XXe siècle. Né en 1882 à Kiévi, dans le Nord, il mourra à Paris en 1960, à l'âge de 77 ans. Le peintre Auguste Herbin est le secret le mieux gardé de l'aventure de l'art moderne, lit-on dans l'entrée. Peintre injustement oublié, pourquoi? C'est la question qui taraude le visiteur en déambulant dans ces petites salles, passant du pointillisme de Seurat à l'abstraction pure, faite de ronds, de carrés, de triangles, dans le même esprit que Malevitch ou Mondrian, mais avec une singularité étonnante. Et pour y parvenir, Herbin passe par le fauvisme, le cubisme, il réalise des autoportraits saisissants qui montrent le chemin qu'il parcourt. Les deux commissaires Cécile Berchiche et Mario Schoeri ont rassemblé ici quantité de toiles, essentiellement de collections privées. Mario Schoeri, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien de l'art, enseignant à l'école du Louvre et à la Sorbonne, à Abu Dhabi. Vous êtes chargé de mission à l'Institut du Monde Arabe. Tout ça nous éloigne d'Auguste Herbin. Comment vous avez rencontré cette peinture?
Alors, c'est une passion qui date de mes études à Sciences Po. J'étais tout près du boulevard Saint-Germain-des-Prés. Un jour, je passe devant la galerie Denise René, j'ai 19-20 ans, et je vois un Herbin de l'époque de l'alphabet plastique, cette abstraction étonnante, dans laquelle il trouve un chemin de perfection intérieure. Et voilà, j'ai mon œil est ébloui, je rentre, je rencontre Denise René, et j'ai passé un bout de mes études chez elle, plutôt qu'à l'amphiboutmi, qui actuellement en fait parler de lui. Ma co-commissaire s'appelle Céline Berchiche.
Voilà.
Céline. Et Céline a fait une thèse sur Herbin, dirigée par Serge Lemoine. Et à l'époque, j'étais tellement fou d'Herbin que quelqu'un, je crois que c'est Geneviève Kless, qui a rédigé le catalogue Raisonné, publié en 93, qui me dit, qui me connaissait comme amoureux d'Herbin, ben, y a une thèse en Sorbonne. Et voilà, donc, V à la thèse, je rencontre Céline Berchiche, Serge Lemoine, et ce soir-là, la famille de Céline qui ne me connaissait pas, a eu la bonté de m'inviter à dîner. Et le jour où le projet est né à Montmartre, j'ai appelé Céline pour faire ça ensemble.
Alors, Herbin commence très tôt. Il suit des cours dès l'âge de 14 ans, au Cateau-Cambrésis, ville natale d'Henri Matisse. Et vous savez que c'est au lycée de Cateau-Cambrésis que seront camarades un futur Premier ministre et un futur journaliste, à savoir Pierre Mauroy et Philippe Tesson. Revenons à Auguste Herbin. Le gamin est doué, il reçoit une bourse de la ville pour étudier aux Beaux-Arts de Lille. Lille où vous pouvez nous entendre sur 97.1, et il fait des portraits, des paysages, des natures mortes. Il est à l'aise absolument dans tous les genres.
Absolument. Il a une bourse en fait pour aller à Lille, puisqu'il est extrêmement bon. Famille pauvre, famille de tisserands, il voit quand même son père travailler à la maison, et il a cette attention au travail bien fait. À Lille, toutefois, son professeur Farrand de Winter rejette l'intérêt qu'Herbin a pour l'impressionnisme, et Herbin comprend qu'il faut aller à Paris. Ce sera le cas en 1901, la ville illuminée depuis déjà une génération et demie, quasiment deux générations, par les ismes. L'impressionnisme, tout se passe en Île-de-France, hein. Bientôt les avant-gardes du 20e, tout le monde vient là, les Espagnols, l'Italien Modigliani, le Japonais Fujita, et il comprend très vite que c'est à Paris qu'il faut faire carrière, et donc il arrive rue du Regard d'abord dans le 14e.
Alors, on peut voir un paysage nocturne à Lille, qui a été peint en 1901, c'est un tableau marqué par le bleu de la nuit et le jaune des réverbères, la toile est quasiment divisée en deux parties horizontales, qui viennent frapper et que viennent frapper la verticalité des arbres. Et puis alors, si on s'approche, eh ben, on voit des personnages errants dans la nuit. Ils sont rouges. L'audace de la couleur.
Alors vous faites, vous avez raison de remarquer déjà la charpente géométrique qui est déjà là,
oui,
dans Herbin. Alors c'est un moment évidemment où, à l'évidence, il regarde comme les jeunes de son époque, vers Signac-Seurat, mais pas que. ces deux dieux étant Van Gogh et Cézanne. Ça se voit moins dans ce tableau-là. Il n'en est pas moins que on reconnaît les grands maîtres au fait qu'avant d'être eux-mêmes, et Herbin sera vite lui-même, ils absorbent ce qu'il y a de mieux dans ce qui les précède. Et là, évidemment, c'est la peinture, c'est les post-impressionnistes qui l'intéressent à ce moment-là.
Alors, j'évoquais le pointillisme de Seurat. On le retrouve en effet dans une toile qui s'appelle « Toit de Paris sous la neige » de 1902. Les flocons sont en effet rendus par des tout petits points couvrant le paysage. Et alors, quand on s'approche, on distingue du jaune, du vert, de l'orange, même le long de la façade de l'immeuble qui borde la toile sur la droite.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que plus tard, bien plus tard, un demi-siècle après, dans son livre « L'art non figuratif, non objectif », il ne va pas tellement commenter ses premières périodes, mais il parlera d'erreurs impressionnistes. Alors, en l'occurrence, là, c'est erreur néo-impressionniste. Il peint, il juxtapose des couleurs, mais pensez que Signac sera, suive Newton. Et on l'idée qu'en séparant les couleurs de prisme, on aura plus de lumière, plus de blanc. Herbin changera d'avis plus tard. Et on verra que en rencontrant la théorie des couleurs de Goethe, qui est différente, qui contredit celle de Newton, il parlera beaucoup plus tard d'erreurs de l'impressionnisme.
Alors, dans la même salle, pratiquement, un autoportrait peint l'année suivante montre un peintre plutôt embourgeoisé, tenant une palette. Il est assis entre deux motifs. À gauche, on a des formes géométriques et colorées qui annoncent ce qui deviendra son abstraction. Et sur la droite, on a un bouquet de fleurs rouges dans un pot, tout ce qu'il y a de plus classique.
Et là, il se peint,
lui, entre les deux.
Complètement. Il se campe évidemment de manière très digne, vous avez raison de remarquer ça, peu de gens le remarquent, donc bravo Christophe, sur ces deux bouquets très différents l'un de l'autre. Cet autoportrait nous vient de Hollande, de Kröller-Müller, et ça me permet ici de souligner que cette collection Kröller-Müller est l'une des plus grandes au monde en Van Gogh et en Mondrian, et il y avait un monsieur très intelligent, monsieur Bremer, qui conseillait cette famille, et qui leur a fait acheter 20 Herbin dans les années 20, acheté à l'époque aux marchands d'Herbin Léos Rosenberg, qui avait racheté le stock, on va dire, à la fois fauve et cubiste d'Herbin en partie.
Donc, et ça coûtait pas cher à l'époque.
Ben, en tout cas, ça coûtait moins qu'aujourd'hui et moins que demain. Dans cette salle, vous avez également des portraits incroyables. Hein. Vous avez ce portrait de Wuppertal d'une jeune femme de 1907,
oui,
qui est un chef-d'œuvre incroyable, hein, où les couleurs sortent des tubes comme des bâtons dynamite, comme dirait Derain. La couleur explose. Et aussi le portrait d'Éric Muzam à sa gauche, qui est la rencontre et de l'histoire de l'art, le fauvisme, la première avant-garde du XXe siècle, celle qui avait projeté Matisse comme chef de file des avant-gardes avant que Picasso lui ravit la place, mais Herbin, il est là au moment.
Le fauvisme... Alors, il a rencontré Éric Courtemussat au Lapin Agile, c'est à 100 mètres d'ailleurs, en descendant sur la droite.
Par Willem Oude, oui.
Et alors là, on le voit, il a les cheveux noirs, crépus, la barbe orange, et il vous regarde derrière des binocles avec un regard perçant et austère. C'est cet anarchiste, écrivain, qui devait être très tonitruant, j'imagine.
Il va appeler à la désertion en 14-18,
oui.
Il est anarchiste, et il va être arrêté... La nuit de cristal est tué en 34 par les nazis. Donc évidemment, là, Herbin le rencontre avant, par l'entremise de Willem Oude, qui est l'un des premiers collectionneurs d'Herbin, qui est ce monsieur délicieux, cet homosexuel raffiné, qui aura un mariage de convenance avec Sonia Delaunay, avant que celle-ci ne quitte Willem pour Robert, sans que Willem ne s'en offusque. Et ce qui est intéressant, c'est que ce portrait, évidemment, là... Il y a 3-4 tableaux fauves côte à côte qui sont absolument incroyables. Et on voit qu'Herbin, dans cette période où le fauvisme est une aventure collective, les couples de Rhin-Vlaminck, Matisse de Rhin, le groupe du Havre, il est singulier, il a une touche divisée qui est comme la sienne, il anticipe Delaunay, il est déjà à chaque fois là où il faut. Et à l'heure, dans ce siècle qui aime les avant-gardes, Herbin est toujours en tête de peloton.
Alors, et plus loin, on peut s'arrêter devant une toile intitulée « La place Maubert », une enfilade d'immeubles aux couleurs vives. Il y a du vert, du rouge, du violet, du rose. Et encore une fois, j'insiste sur le côté coloriste et l'audace des couleurs qu'il a.
Alors, il disait que les peintres du Nord sont coloristes. Pensez à Matisse, qui vient de la même région.
Oui.
Parce que région de Tisserand, et le tissu, ça se colore.
Mmh.
Et il l'a dit lui-même, les peintres du Nord sont coloristes. Mais on le met quelque part, je crois, dans l'exposition.
Ah, il se trouve que je connais la peinture de la fin, l'abstraction, et je suis sidéré par le chemin que l'exposition donne de parcourir. C'est aussi saisissant que lorsqu'on connaît la bouche de métro de Rothko, et que l'on voit ensuite les grands aplats de Rothko. Et là, on voit cette peinture très figurative, qui va passer par le fauvisme, qui va ensuite passer par le cubisme, on va y arriver. Je recommande de voir l'exposition deux fois. La première fois pour suivre le cheminement, et une fois qu'on est allé à l'acmé, à l'apogée de l'art, avec l'alphabet, de l'art, et on va y revenir, de l'art d'Herbin, eh ben on recommence la visite. Et on recommence la visite avec l'abstraction en tête et de voir comment, déjà, elle naît à travers l'étoile figurative.
Ben, ce qui est intéressant, là, juste après la salle Fauve, vous avez la salle qu'on appelle après Cézanne,
oui,
dans laquelle vous avez un premier tableau 1908, pardonnez-moi, qui est cézannien à sa manière. En 1907, un an avant, il y a la rétrospective au Salon d'automne de Cézanne, 50 œuvres sont vues, et c'est là où les jeunes Picasso, Derain, Herbin comprennent l'implication volumétrique, géométrique également de Cézanne, au sens où la phrase d'Amile Bernard, peignez la nature comme si c'était des cônes, cylindres, etc. Herbin, donc, est parmi les tout premiers cézanniens. S'y acte son importance aussi, déjà, la période fauve, incroyable, mais là, à nouveau, on voit que Herbin est l'un des premiers. Avant bien d'autres, qui est cézannien en premier? Ils sont une poignée, ils sont moins de 10, et Herbin est dans cela. Il comprend Cézanne de Cézanne, pas de Picasso, et pas de Braque. C'est ça qui est intéressant, et l'exposition le démontre. C'est un maître à part entière.
Alors, c'est bien comme Cubis qu'il exposera avec Picasso, Braque et Messinger. Il n'est pas forcément pote avec eux, hein, ils se connaissent, mais Herbin les fréquente guère. On a l'impression d'un solitaire qui travaille comme une brute.
Il fait pas partie du groupe de Puteaux. Vous savez, le cubisme fait scandale au Salon en 1912. C'est la Tour Eiffel, c'est Delaunay, c'est Lafrenet, c'est Gleyze, c'est Messinger. Mais ceux-là, ils sont également dans une tradition française. Herbin, c'est le cas, mais Herbin est plus cézannien. Herbin ne fait que des natures mortes, des paysages et des personnages humbles comme Cézanne et comme Picasso. Herbin n'aurait pas fait de cathédrale gothique comme Gleyze. Herbin n'aurait pas peint les Trois Grâces comme l'a fait notre ami Delaunay, avec d'ailleurs Grâce en jeu de mots. Herbin est plus cézannien qu'eux. Et quand il y a ce scandale du Salon, Herbin, évidemment, a des réseaux de marchands peut-être moins puissants que d'autres. Et même quand il va à Serré, il ira trois fois à Serré. En 1913, on pense que Picasso le suggère, mais il n'est pas dans la même maison que Juan Gris et Picasso. Donc, il n'est, comme dit Christian Derouet, d'aucune photo, d'aucun dîner. C'est un homme solitaire. Alors, va cheminer vers le mariage, mais il a une vie, évidemment, de moine.
Il va à Serré, que l'on appelle le Barbizon du cubisme, ou encore la Mecque du cubisme, où il s'y retrouve Picasso, Juan Gris, on est là dans les Pyrénées orientales. Et en 1913, sa carrière est quand même déjà internationale. Plusieurs expositions lui sont consacrées en Allemagne, en Angleterre, en Suisse. Ses œuvres sont conservées dans des grandes collections européennes, dont celle du russe Stoudkin et de l'allemand Henry Sims. Il se distingue aussi par l'audace des couleurs, j'y reviens toujours, les contrastes sont vifs, les formes géométriques, carrés rouges, triangles violets, Paris pépette vert, se mêlent déjà aux motifs, on les a déjà en arrière-fond, mais ils vont arriver en premier plan. Et regardez par exemple ce village, sous les nuages menaçants, avec son clocher au centre et ses arbres.
Thank you.
cet extrait du deuxième concerto pour piano et orchestre de Prokofiev, composé précisément en cette année 1913, quand Auguste Herbin séjourne à Céret. Alors en 14, il est mobilisé, et au sortir de la guerre, il se dirige vers des objets monumentaux, imaginez. Ce qui s'est marqué sans doute par l'esthétique du Bauhaus en Allemagne. Il lui semble urgent d'inscrire l'art dans chaque détail de la vie, bien que soutenu par le marchand Rosenberg, dont la galerie s'appelle L'Effort moderne, ça ne s'invente pas. Est-ce qu'Herbin n'est-il pas dans une impasse à ce moment-là?
C'est une époque où, quand il démarre les objets monumentaux, il n'arrive pas à vendre. Il préfigure, il est un peu avant Bauhaus, hein, puisqu'il va faire des objets également utilitaires, des tabourets colorés. Un cadre de miroir qu'on voit dans l'exposition. Mais ça ne va pas marcher et Léon Rosenberg le poussera à revenir vers la figuration. Mmh. Vous parliez de Prokofiev. Ce qui est intéressant, c'est que il est déjà dans les collections russes. Mais je recule d'un instant. Il y a l'exposition qui montre une photographie d'Herbin dans l'atelier de Picasso, boulevard de Clichy en 1911. On voit les tableaux de Picasso, Picasso prend la photo et on voit les tableaux de la période hermétique en grisaille. Herbin, à ce moment-là, est coloré. Et on le voit avec des tubes. Peut-être qu'il emprunte ce jour-là à Picasso. Donc il reste fidèle à la couleur. 1913, c'est aussi l'année de l'exposition la plus importante du siècle, l'Art Moriz Show à New York. En une nuit, les Américains découvrent les artistes décédés, les post-impressionnistes et les vivants, Brancusi, Duchamp, etc. Et l'Amérique comprend qu'en fait, elle est has-been et que la modernité, depuis une génération, c'est le bassin, c'est Paris dans le fond. Mmh. Et Paris et New York nous ravira la place en 45. Mais Herbin, il est annoncé, mais il n'est pas présent dans l'exposition de 1913. Voilà, je reviens évidemment à cette période dite des objets monumentaux. C'est un échec. Il arrête la production de ces objets.
Mais là, c'est très intéressant parce qu'on sent que c'est un homme qui est tout le temps en quête. Et cette quête le fait avancer et va aller jusqu'à l'acmé de sa peinture dans les dernières salles. Mais là, c'est une impasse. Il le comprend. Il se retourne et il continue son chemin.
Alors la quête, elle pourrait être résumée par une phrase de Cézanne, son maître. Cézanne nous disait, l'art est une harmonie parallèle à la nature. Et si vous regardez bien l'exposition, à tous les états, à tous les stades, ce qu'il recherche, c'est bien cette harmonie, d'autant plus parallèle à la nature qu'elle va l'en éloigner de plus en plus.
Mais oui.
Mais comme chez d'autres au siècle.
Alors, cet épisode est intéressant pour le biographe comme pour le visiteur. Nous suivons un parcours singulier, personnel, hors norme finalement, solitaire aussi, et nous apercevons des méandres de la quête. Il revient à la figuration, regardons ces joueurs de boules de 1923. On a cinq hommes, dont l'un à droite est coupé par le cadre, deux sont de face, l'un est de dos, deux sont de profil. Les attitudes montrent la perplexité, comme si le visiteur, vous, moi, serions les arbitres de la partie engagée. Comme toujours, les couleurs sont audacieuses. Alors, à côté de moi, il y avait une visiteuse qui dit à son amie « Oh, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'ombre, tout semble à plat. » Mais Herbin n'en a pas besoin parce que le ciel tourne à l'orage. Faut-il y voir ou y lire une forme française du réalisme socialiste? Tiens donc, Herbin, justement, à ce moment-là, prend sa carte du Parti communiste français.
Il l'a pris dès le congrès de Tours. Mais justement, c'est tout sauf du réalisme socialiste. Au sens où les tableaux, le tableau que vous décrivez, qui nous vient du Centre Pompidou, merci à eux, ainsi que les natures mortes admirables, les années 20, même une tardive fin des années 30, qui est pas, date de la période plus dévolue, ces tableaux-là et ces paysages-là ne peuvent être que de l'entre-deux-guerres. Ils ne pourraient pas être de 1900 ou de 1850. Mmh. La meilleure expression pour en parler, c'est celle de l'historien d'art allemand Franz Roh, qui classe Herbin dans ce qu'il appelle le réalisme magique. C'est à ce moment-là un style international. D'autres peintres peignent comme ça, comme Alexander Canolt,
mais oui,
qui fait partie de la nouvelle objectivité allemande. Donc vous voyez bien ici des pêches, des poires, des choux, pardonnez-moi, des concombres, des pommes. Mmh. Les tableaux sont cézanniens. Il n'y a plus de traces de cubes, de cubisme, mais même Malevitch, quand il parle d'Herbin, dans un article, classe encore ses œuvres pourtant figuratives dans le cubisme. Qu'est-ce que notre ami Malevitch entendait par là? Il avait évidemment une vision extrêmement profonde, une compréhension très profonde de la peinture d'Herbin.
Alors Auguste Herbin revient à l'abstraction, une abstraction circulaire avec courbes et volutes. On pense à Robert Delaunay ou à Fernand Léger. Tiens, Fernand Léger, on y pense en regardant ce bateau à quai de 1909. Et encore une fois, la couleur, toujours la couleur. N'y aurait-il pas une correspondance entre la couleur, la forme géométrique, le sens et parfois le son? Il se souvient des correspondances de Baudelaire, des voyelles de Rimbaud, de l'art de la fugue de Jean-Sébastien Bach. Tiens, allez, on se relit les voyelles de Rimbaud, c'est un sonnet. A noir, E blanc, I rouge, U vert, O bleu, voyelle. Je dirai quelques jours vos naissances latentes. A noir, corset velu, des mouches éclatantes qui bombinent autour des puanteurs cruelles. Golfe d'ombre, E, candeur des vapeurs et des tentes, lance des glaciers fiers, roi blanc, frisson d'ombrelles. I, pourpre sans cracher, rire des lèvres belles dans la colère et les ivresses pénitentes. U, cycle vibrement divin des mers virides. Paix des pâtis semés d'animaux, paix des rides que l'alchimie imprime au grand front studieux. Ô suprême clairon, plein des strideurs étranges, silence traversé des mondes et des anges. Ô l'oméga rayon violet de ses yeux. Et c'est cette correspondance, cette tentative initiée par Baudelaire, reprise par Rimbaud, je viens de le lire, par Mallarmé aussi, cette correspondance anime notre Auguste Herrmann. Il invente un alphabet, c'est à vous.
À part qu'il rajoute également des formes, c'est ce qui est nouveau.
Mario Schwery. Mais... commissaire, voilà. Co-commissaire.
Voilà. À part qu'il rajoute des formes. Et si vous voulez, avant juste de parler de l'alphabet classique, il y a la période évidemment circulaire, on va dire, d'évolute. Cette période-là, c'est une période où Herrmann est moins isolé. Il anime une revue, Abstraction Création, en 32 et 36. Et il y a dedans Mondrian, Théo van Doesburg, Delaunay, etc. Et vous voyez, chacun est libre. Le seul point commun, c'est la non-figuration et l'art objectif. Non-objectif, pardonnez-moi. Quand il arrive à l'alphabet plastique, après la découverte et la lecture de Goethe qu'il rencontre à travers Rudolf Steiner, Herrmann n'est pas théosophe comme Mondrian l'a été. Il n'est pas tombé dans ce piège, je dirais, un peu pseudo-scientifique et fumeux. Toutefois, il lit une revue de Steiner, Science spirituelle, et l'anthroposophie de Steiner avait pour but de rendre scientifique la théosophie. C'est un peu curieux. C'est-à-dire qu'en fait, il vise à une mystique rationnelle. Alors évidemment, l'histoire et la science aujourd'hui rejettent à raison cette ambition-là. Il n'en est pas moins qu'Herrmann arrive à un alphabet plastique en 42 pendant la guerre. Il associera des formes, des couleurs, des notes de musique et trouve, comme je disais, et comme le dit, je pense, Denise René, un chemin de perfection intérieure. Et là, il pourra se libérer, écrire des mots avec un alphabet qui est le sien. Il dira, les Chinois créeront le leur. Simplement, cet alphabet incroyable qui va faire dire à Vasarely que Herrmann est son dieu, qui fera dire à Deleuze que Herrmann était plus loin que tout le monde et qui fera dire à Jean Cassou, compagnon de la Résistance, admirable premier directeur du musée d'art moderne, et je cite ici Jean Cassou, un communiste parle d'un communiste, mais comme la sœur Nura de chrétienne, vous allez voir, c'est très chrétien en réalité. Il faut situer Herrmann parmi ces très audacieux inventeurs de l'art abstrait, que l'art abstrait, pardonnez-moi, reconnaît comme ses premiers maîtres. Proche compagnon de ceux qui cherchaient, il cherchait au-delà et plus outre. Ayant trouvé sa vérité, Herrmann lui a consacré sa vie. Et cela avec une patience, une pureté, une ferveur, une foi, on dira même une sainteté qui réclamait la plus parfaite admiration. L'œuvre solitaire et obstinément héroïque d'Auguste Herrmann est l'œuvre d'un homme qui possédait la conscience de l'absolu et qui en fut embrassé jusqu'au terme. Herrmann nous dit dans son livre, donc l'art non figuratif, non objectif, en 49, l'idée de Dieu est en l'homme, qu'il
alors,
le sache ou non.
On y arrive, parce que nous montons à l'étage, nous traversons l'atelier de Suzanne Valaudon, regardons la chambre d'enfant de Maurice Utrillo, tout est dans son jus, c'est merveilleux, il ne manque que la musique de Puccini pour retrouver Rodolfo, quel plaisir et quelle vibration. Et puis là, une peinture résolument contemporaine, parfaitement pensée, maîtrisée. Herrmann écrit « La signification de la vérité créatrice s'identifie à la signification. » Et là, avançons, sur la droite. La toile n'est pas accrochée en majesté, c'est peut-être mieux comme ça. La toile s'appelle Dieu. Marion Schwery.
Alors voilà. Donc c'est, alors, il est athée, c'est le paradoxe. Mais il écrit dans son livre de 49, où il résume ses pensées, hein, « L'idée de Dieu est en l'homme, qu'il le sache ou non, qu'il le croit ou non, l'homme tend à réaliser l'idée de Dieu. » Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'un athée qui nous écrit, qui parle de Dieu, qui c'est Saint Jean, l'Évangile, au commencement était le Verbe, etc. Et en fait, Herrmann constate que l'art, de par lui-même, est arrivé à cette espèce de, comme dirait Alfred Barr à propos de Matisse, la triomphe de l'art sur la réalité factice. La réalité factice et l'art vise à autre chose. Et il constate que l'abstraction, en fait, semble réaliser un commandement divin qui est l'interdiction dans le Deutéronome de la figuration par le bon Dieu. Et donc, Herrmann juste dit, dans le fond, voilà, il constate ce point commun et il parle de l'esprit, il parle de la vérité. Mais alors, je reprendrai une expression de Rémi Brague. Il n'est peut-être pas chrétien, mais il est christianiste. peut-être.
Alors on voit ce cercle, la forme parfaite qui s'élargit par des ronds dans l'eau, comme des ronds dans l'eau, le rouge au centre pris dans quatre coins qui s'étire en bleu vers un autre cercle mystérieux, inachevé ou en cours d'achèvement éternel dans le noir, l'obscur peu à peu recouvert. C'est le moment de sa quête où il laisse les angles droits aux architectes et joue au contraire sur les courbes. Il en reviendra en 1939. Cette toile, Dieu, est importante. Herbin en a peint plusieurs et réalisé de très nombreux travaux préparatoires pour cette toile Dieu qui est si importante. Ainsi, à scruter les dernières toiles, on pourrait les lire comme une partition et entendre les sons qui animaient la main gauche d'Auguste Herbin. Je parle de sa main gauche parce que frappé d'hémiplégie à la fin de sa vie, il réapprit à peindre de la main gauche. Merci Mario Chouéry, pardon. Je rappelle que vous êtes co-commissaire avec Céline Berchiche.
Voilà, un très beau catalogue aussi.
De l'exposition Auguste Herbin, il y a un très beau catalogue. Auguste Herbin, le maître révélé, qui se tient au musée Montmartre et qui vient d'ouvrir jusqu'au 15 septembre. Il me reste à remercier Jean-Paul Lérine pour la réalisation, Philippe Alpeuch, François Dudonné pour la réussite technique de ce moment que vous pouvez retrouver sur l'application Radio Notre-Dame. Demain, c'est mardi, je recevrai Pascal Bruckner pour son nouvel essai « Je souffre, donc je suis », publié chez Grasset. D'ici là, prenez soin de vous et des autres, et je vous embrasse.